Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Il y a près de deux semaines, le conducteur d'un taxibus a été tué par un policier au niveau de la rue Sakumbi dans le quartier Makampagne à Kinshasa. Le chef de la police dans la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, affirme que cet acte inacceptable s'est passé dans un embouteillage. Il y a eu une incompréhension apparemment et le policier des gardes qui était dans un véhicule a tiré sur le chauffeur avant de s'enfuir. Cette affaire relance les débats sur la garde des personnalités civiles et militaires ainsi que la problématique des cortèges des officiels. Comment commentez-vous cette actualité? Merci d'être avec nous. Appelez-nous au 081 890 49 69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs pour commenter ces sujets. Alain Goy est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay, Pierrot et Lamengi. C'est pour moi un réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Lamengi.
Cet incident avait conduit la police nationale congolaise à prendre un certain nombre de mesures quant à la circulation des véhicules en termes de plaques d'immatriculation, quant à la garde aussi des personnalités à travers le pays. Et pour avoir plus de précisions sur cette affaire, nous recevons dans ce studio le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Mon colonel, c'est encore un plaisir de vous recevoir.
Merci Pierrot, c'est moi qui suis de plus en plus ravi de revenir dans votre studio.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement autour de cette affaire qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on dit?
Eh bien, vous savez Pierrot, avant qu'on arrive là, je pensais qu'il était important que nous arrivions, n'est-ce pas, à vous définir l'exacte considération que nous avons ou les grandes attributions non conférés par la loi fondamentale, et puis nous allons aborder le sujet calmement.
Exact.
Et voilà. Et donc nous devons reconnaître que le article 182 à 186 donne une certaine projection en rapport avec les missions constitutionnelles qui ont été dévolues à la police. Vous avez à l'article 182, il est dicté, la police est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des autres autorités. Mm-hmm. C'est là la problématique que nous allons traiter aujourd'hui.
Oui,
il s'agit de la protection rapprochée des autres autorités. Et l'article 186 dicte qu'une loi organique va fixer n'est-ce pas, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale congolaise. Et la loi organique a été prise, c'était celle du 11 août 2011, numéro 11/013, et qui, en son article 23, énumère les structures de la police nationale congolaise, en commençant par le Conseil supérieur de la police, qui est l'organe consultatif du gouvernement en matière de police. En second lieu, vient le commissariat général de la police nationale congolaise, une structure de commandement à l'échelon national. Et en troisième lieu, on parle de l'inspection générale, qui est une structure de contrôle interne, d'audit, d'enquête et d'évaluation des services de la police nationale congolaise relevant du ministère de l'Intérieur. Et en quatrième position, nous avons les commissariats provinciaux, qui sont, n'est-ce pas, des structures de commandement au niveau de chaque province, et puis les unités territoriales ainsi que locales. Alors, le commissaire général, il y a eu un décret qui a été pris pour justifier, n'est-ce pas, ses attributions et ses différents organes, différentes structures. C'est le décret numéro 13/017 du 6 juin 2013 qui détermine l'organisation et le fonctionnement du commissaire général de la police congolaise. Alors, à son article 13, il dit ceci parce que le commissaire général a trois coordinations. Il y a la coordination police administrative qui se charge de la prévention, la coordination police judiciaire qui se charge de la répression, et la coordination après gestion qui appuie le décoordination, n'est-ce pas, en personnel, en finance, en santé, et pourquoi en génie aussi, en logistique, voilà. Mm-hmm. Alors, parmi, n'est-ce pas, les différentes structures de la coordination police nationale police administrative, il y a aussi la direction des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire. Et en sixième lieu, il y a l'unité de protection des institutions de haute personnalité. L'unité qui est appelée, n'est-ce pas, à garder les hautes personnalités, les bâtiments, les résidences, même assurer l'escorte. Voyez-vous? Et la question primordiale, c'est pourquoi cette institution a vu le jour au sein de la police nationale congolaise? Mm-hmm. C'est là où nous allons, n'est-ce pas?
Exactement.
Discuter aujourd'hui et avoir la grande thématique. Et à son article 19, le décret, il est dit que maintenant, on est en train de parler de la protection des institutions de haute personnalité. C'est quoi cette unité-là? C'est une unité qui a pour mission de protéger les institutions de la République. Les bâtiments administratifs de ces institutions-là, les édifices publics et les résidences de ces autres autorités politico-administratives, ainsi que les bâtiments et résidences des représentations et missions diplomatiques dans notre pays.
Ça, c'est l'UPI qu'on appelle l'unité de protection.
Voilà. Et en outre, elle a aussi comme mission d'assurer la protection rapprochée et l'escorte de sécurité au profit des hautes autorités de la République démocratique du Congo et de leurs hôtes. Tous les visiteurs qui viennent, mm-hmm, pour le compte du gouvernement ou de la présidence de la République ou du Parlement, sont escortés par et protégés par les gardes ou les policiers qui sont affectés à cette unité-là. Et ils participent à la sécurisation des visites officielles, comme je l'avais dit, des hautes autorités congolaises à l'étranger, n'est-ce pas? Et des autorités étrangères qui viennent dans notre pays. Et après, à la fin de cet article ici, 19, il est dit, in fine, un arrêté du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions va déterminer la liste de ces hautes autorités et des bâtiments administratifs et édifices publics ainsi que des résidences dont il est question à cet article ici. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, cet arrêté n'a jamais été pris.
Ça dit
c'est ça la problématique.
On ne sait pas déterminer en principe qui est haute autorité.
Mais c'est très difficile. Bon, on le connaît, mais là, il faut savoir l'étendue. N'est-ce pas? C'est dans cette confusion-là que maintenant,
il y a... Mais comment la police arrive-t-elle à affecter ces policiers alors qu'il n'y a pas cet arrêté du ministre de l'Intérieur qui doit déterminer?
Le besoin étant de sécuriser, nous ne pouvons pas attendre l'arrêté. Sinon, on posera la question de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas été protégé ou sécurisé telle personne qui se sentait en danger ou de par ses fonctions, il doit être protégé par la police nationale congolaise. Parce que chacun peut venir de façon sectorielle pour dire, moi, j'ai le droit d'être protégé parce que de par les fonctions que j'assume, ce sont les fonctions régaliennes, il faut que je sois protégé par la police nationale congolaise. Et vous montez une source d'attribution et vous dites qu'il a droit. En attendant que, mais dans l'entretemps, votre arrêté, n'est-ce pas, portant énumération des personnes, de hautes personnalités qui doivent, de hautes autorités qui doivent bénéficier de la garde policière n'a pas encore été établie.
Mais est-ce que mon colonel,
nous n'allons pas attendre que on prenne l'arrêté avant de sécuriser, n'est-ce pas, les autorités?
Est-ce que c'est un arrêté qui va rester permanent ou c'est à chaque moment le ministère de l'Intérieur doit sortir un arrêté pour actualiser, par exemple, ou c'est un arrêté qui va rester permanent mais qui est qui ne porte pas de nom, si on peut dire ainsi?
Bon, la loi ne l'a pas encore dit, je ne sais pas anticiper sur ça. S'il faut amender la loi dans ce sens-là, je crois que cela n'est pas de mon domaine.
Mais cela étant, est-ce que parce que l'événement qui provoque ces débats, ces gardes du corps qui a tiré sur un chauffeur, alors, est-ce que de particulier, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas un pouvoir officiel, a-t-il droit aujourd'hui de venir solliciter la protection auprès de la police?
Oui. Vous savez, il y a une autre possibilité de sécurisation de personnes qui sont en danger de mort, qui sont menacés, n'est-ce pas? Et généralement, dans le domaine de la sécurité publique et au titre de prévention, lorsque une personne prend la menace au sérieux, une menace dont il faut s'inquiéter, n'est-ce pas? et que sa mise en exécution aura de graves conséquences allant jusqu'à attenter à son intégrité physique. Ici, nous faisons référence à des menaces de mort, de coups de fil anonymes. Cette personne qui se sent insécurisée déposera une plainte à la police. Une plainte contre un inconnu, généralement. Mm-hmm. Et la police, il va le mettre sous protection des forces de l'ordre. Et le temps pour les enquêteurs de gérer cette menace, c'est-à-dire de collecter les données nécessaires et d'identifier les présumés auteurs, au besoin, les mettre hors d'état de nuire, et jusqu'à ce que on va savoir que la menace n'existe plus, soit on allège le système qui a été mis en place, la couverture sécuritaire, ou carrément, on allège, ou carrément, on l'enlève. Voilà. Donc, mais le drame, c'est que il y a des personnes qui ont bénéficié de ce genre de couverture sécuritaire, de cette garde, de cette protection, qui, la menace n'étant plus là, continue à garder les policiers. Donc, il y a des personnes qui, ça fait 20 ans, qui sont sous protection de la police, alors que la menace n'existait plus. Voyez-vous?
Voilà, ça c'est le premier volet. On va revenir, on va écouter le premier groupe d'auditeurs. On va revenir sur le deuxième volet qui concerne, bien sûr, les cortèges des officiels. Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent aussi des questions. Qui doit être en cortège? Qui a la priorité sur la route? Qui n'en a pas? Voilà, c'est un peu, les affaires sont liées. Parce que chaque fois quand vous êtes dans l'embouteillage, un policier débarque de son véhicule, il dégage la circulation pour que les cortèges passent. Des fois, les gens se posent des questions, mais, qui est dans ces véhicules là aussi qui veut qu'il passe? Voilà, c'est un peu l'ensemble de tout ça qu'on va. Vous pouvez placer un mot avant d'écouter les auditeurs?
Mais non, pas de souci pour ça. Nous allons pratiquement savoir quels sont les véhicules prioritaires.
Exact.
Et quels sont les véhicules qui ne sont pas prioritaires, mais qu'on peut tolérer, n'est-ce pas, de leur donner une certaine priorité.
Voilà.
Il y a ces deux catégories-là.
Voilà. Marcel, vous êtes à Luisa, Gachel est à Brazzaville et Bati à Kinshasa cette fois-ci. Marcel, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci Radio Capi. D'emblée, je vais exprimer ma compassion à la famille de la victime de l'indiscipline et de la barbarie policière de la République démocratique du Congo. Je reviens pour saluer une fois de plus M. Pierrot Mwanampou, tous les porte-parole de la police congolaise, une fois encore que je les retrouve sur les plateaux dans un débat pareil. Monsieur le journaliste, vous verrez que autrefois sur vos antennes, nous avons parlé des priorités des cortèges de certaines autorités. C'est ce qui m'amène à partir de ce qui arrive. Vous allez voir que la première observation, ce que je fais, c'est que je remets en question, c'est pourquoi nous disions cette fois-là, nous remettons en question cette théorie des priorités, parce que dans cet privilège-là, c'est ce qui donne déjà l'occasion de tous ces cas que nous sommes en train auxquels nous sommes en train d'assister. La deuxième observation que dans mes analyses, à entendre les chefs de la peine, sérieusement que leur porte-parole est dans vos installations, Monsieur Pierrot Mwanampoutou, à entendre les déclarations de Monsieur Silvano Kasongo, son affirmation est légère et aussi indifférente et en même temps ambiguë quand il dit qu'il y a eu une incompréhension dans un embouteillage. Je souligne les mots, il dit dans un embouteillage apparemment. Donc, pour vous dire que jusque-là, il n'est pas rassuré encore, il n'est pas encore rassuré de la cause de ce qui a poussé à ces policiers de tirer sur les chauffeurs. Heureusement que les porte-parole de la police est là, mais vous sentez quand les porte-parole parlent, vous sentez qu'il analyse comme un scientifique, il n'analyse pas comme un policier commis à cela. Mais il va un peu me répondre par rapport aux déclarations de Monsieur Pierrot Mwanampoutou qui dit que, enfin, Silvano Kasson qui dit apparemment. Voilà. Ceci, il est alors imprécis dans ce qu'il dit. Mais ce qui m'arrive à dire ceci, est que cette barbarie est la preuve du mauvais recrutement sans critère des policiers. Il y a aussi ce qui arrive, le manque du professionnalisme, l'ignorance du rôle régalien de la police congolaise et aussi l'impunité. Vous allez voir que ces policiers ne seront même pas inquiétés, monsieur. Et aussi, ce qui m'arrive à dire aussi, c'est que nos policiers ont encore apparemment la manie dans leur mental là, du régime terroriste habitué à réprimer et même les manifestations pacifiques. C'est ce qui fait ça. Donc il y a aussi dans les policiers une manque d'éducation civique rationnelle. Il y a aussi la conséquence négative de la formation donc nocturne. Donc on recrute un policier le soir, le lendemain matin on lui confie l'arme. Je ne sais pas quelle est la perspective d'avenir que M. Pierrot Mwanampout, comme porte-parole, avec toute la gestion des autres, peuvent déjà commencer à mettre en place pour remédier à ces...
Merci beaucoup. Merci.
Pour finir, s'il vous plaît.
Rapidement,
pour finir,
oui.
Je voulais dire, pour finir, j'étais en train de dire que, sachant que, pensant que le véhicule dans lequel cet assassin a été identifié, l'autorité pour qui il a été commis, les deux doivent d'abord être... On doit d'abord poursuivre l'autorité qui pour qui il a assumé la garde. Et ensuite, on aura à réprimer aussi ces policiers.
Merci voilà, beaucoup, Marcel. Vous avez, pour vous, vous estimez que dans le communiqué de la police, vous estimez qu'on n'a pas pris vraiment la chose à cœur. Le fait de dire qu'il y a eu une incompréhension apparemment dans l'embouteillage, cela montre que le commissariat général n'a pas pu prendre la mesure de la situation. Et vous estimez que tout cela s'est arrivé parce qu'il y a beaucoup de faiblesses, les manques des disciplines, une formation inadéquate, manque d'éducation, recrutement, précipitation à octroyer les armes. Et pour vous, il faut qu'on identifie la personne qui était gardée et que les sanctions suivent. Merci beaucoup. Gachel, vous êtes à Brazzaville. Merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Donald.
On vous écoute.
Bon, moi, ma contribution est que c'est que... Bon, moi, je suis déçu à propos de la police, de la RDC. Monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez imaginer, moi-même, je suis victime de ça. La dernière fois, j'étais à la RDC pour aller à l'Est, là, en Angola. J'étais victime de ça. On m'a coincé chez un policier, je ne sais pas. Donc, jusqu'alors, je l'avais donné même, parce que sans nous, on ne sait pas. Est-ce que je sais pas? Vous pouvez imaginer la police qui fait des genres de choses. Je sais pas s'ils ont passé à l'école. Je sais pas si c'est la formation qu'ils ont pris pour emmerder les gens dans la circulation. C'est pas normal. Même si à Brazzaville, il y a des embouteillages partout. Je n'ai jamais vu un policier pointer un arme. Pour un chauffeur, je n'ai jamais dit ça. Comment tolérer des choses comme ça, là? C'est ridicule. Nous sommes ailleurs, là, quand on coupe des choses comme ça, là, c'est pas normal. Ça nous décourage. Vraiment, pour ce qui s'est passé là, vraiment, je vous dis, je suis déçu. Je suis déçu. Je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer ça hier. Hein? Voyez-vous-même, le policier emmerde les gens n'importe comment, je ne sais pas. Voyez-vous, le tassement qui roule à la RDC, il gagne combien? Un routier, il peut sortir devant la voiture, menacer le chauffeur pour avoir de l'argent, pour emmerder le chauffeur, bon, je ne sais pas.
Voilà, ça veut dire que vous estimez qu'il y a du travail pour vous, il y a des embouteillages partout, mais c'est pas normal qu'un policier sorte son arme pour menacer un chauffeur, hein, n'est-ce pas, sur la route. Merci beaucoup, Gachel Batier. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Radio Bati. Je salue d'abord tous nos compatriotes qui nous ont dit d'aller au France, ainsi que l'invité qui est au plateau.
On vous écoute.
J'avais deux questions que je voulais poser à l'invité. Je voulais d'abord qu'il nous dise, est-ce qu'il est autorisé dans notre pays que les véhicules circulent sans plaque d'immatriculation? C'est ça la première question. Et la seconde, je voulais savoir, est-ce qu'il peut nous dire qu'il est autorisé à ce que les véhicules circulent aussi avec plaques, mais les plaques sont voilées, parce que c'est des cas que nous restons même à l'intérieur ici. Il y a des véhicules en plaque, et nous estimons que ces véhicules-là, ça nous fait les sécurités. Et ce sont les officiels, les autorités, surtout militaires et policières, qui utilisent de tels types de véhicules. Alors, je voulais dire que l'invité nous explique si cela est autorisé ou pas, parce que nous fréquentons les pays voisins ici. Je vous assure que vous ne pouvez pas faire 5 km avec une voiture sans plaque d'immatriculation. on a été à Nairobi, et c'est bon, et nous, ils nous disent que non, chez vous là-bas, je termine une voiture, je suis en plaque, ça circule. Alors,
voilà, mais en même temps, on a des petites difficultés sur votre ligne téléphonique, Bathier, mais dis-moi, on a suivi, vous avez posé la question, vos deux questions, est-ce que c'est autorisé qui en véhicule circule sans plaque d'immatriculation ou bien avec une plaque bâchée? Voilà, c'est la question que vous avez posée. On vient revenir directement à vous, colonel Pierrot Manampoutou. On a suivi les trois premiers compatriotes qui sont revenus sur cette question de la garde et du comportement même des policiers qui sont en train de garder les autorités par rapport à ça. Et notre ami Bathier, lui, revient sur la question des plaques d'immatriculation.
Oui, merci beaucoup, Pierrot. Je pense que nous avons répété à maintes reprises ici au studio que le cas malheureux qui s'est produit il y a de cela deux semaines, où un conducteur de taxi bus a été tué par un policier à bout portant, au niveau de l'arrêt appelé sa combi dans le quartier de ma campagne. C'est un acte inacceptable. Mm-hmm. Mais nous voudrons tout simplement dire que les enquêtes se poursuivent, les enquêtes sont en cours, pour essayer, n'est-ce pas, d'identifier le président auteur et le neutraliser pour qu'il réponde de ses faits devant son juge naturel. Et si je vous disais que le véhicule dans lequel le fugitif, les policiers fugitifs et tueurs de son état étaient, c'était un véhicule TX qui avait une plaque d'immatriculation bâchée.
Celle qu'on n'a pas pu identifier.
J'ai bien dit bâchée. Ça signifie que nous n'avons pas la possibilité de remonter jusqu'au propriétaire. Voyez-vous, c'est comme ça que il y a eu, n'est-ce pas, cette décision qui a été prise par les autorités pour dire que désormais il est interdit de circuler avec véhicule portant plaque d'immatriculation bâchée, portant plaque d'immatriculation non conforme, c'est-à-dire de couleur jaune-bleu, portant sans plaque d'immatriculation, ou avec gyrophare, ou avec sirène. N'est-ce pas? Et je répondrai, n'est-ce pas, Bakier, pour dire que les nouveaux codes de la route ne permettent pas, n'autorisent pas qu'un véhicule puisse circuler sur la chaussée avec une plaque bâchée, sans plaque ou avec une plaque non conforme. C'est interdit. Même pour les véhicules gyrophares avec sirène, c'est réglementé par notre loi, code de la route. Et donc, ce sont les abus, certainement les abus, et nous en sommes très désolés, mais ce sont des abus. Voilà.
Mais dis-moi quand même, la police a commencé les travaux sur terrain ici à Kinshasa pour le contrôle des véhicules avec des plaques non conformes, mais aussi avec des plaques bâchées. On a vu quand même le travail a commencé à se faire sur terrain.
Mais l'opération continue. Dernièrement, le lundi, il y a eu une réunion de sécurité qui était présidée par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, où il a été fait mention notamment, n'est-ce pas, l'évaluation des opérations que mène actuellement le commissaire provincial de la ville provinciale de Kinshasa en rapport avec l'interdiction à circuler des véhicules portant plaque d'immatriculation bâchée, sans plaque d'immatriculation, immatriculation non conforme. Et il a été, le commissaire provincial a été félicité. On lui avait demandé de continuer cette opération pour diminuer, n'est-ce pas, le nombre de cas de criminalité dans la ville provinciale de Kinshasa. Donc, c'est une opération que l'autorité, au niveau du ministère de l'Intérieur, notre ministère éditeur, a encouragé pour que, même les participants qui étaient là-dedans, pour que cette opération continue. Et vous verrez, ces derniers temps, sur la chaussée, il y a de la discipline. Et, étant donné aussi, n'est-ce pas, qu'il y avait beaucoup de ces autorités qui roulaient avec gyrophares et sirènes, eh bien, et nous avions réglementé pour dire, écoutez, laissez les véhicules de la police laisser les véhicules escortés par la police, n'est-ce pas? Mm-hmm. Quand une autorité est escortée par la police, eh bien, ce véhicule-là est un véhicule prioritaire. Voyez-vous, si le véhicule de la police est en intervention, c'est un véhicule prioritaire. Mmh. Et les ambulances sont des véhicules prioritaires parce qu'il y a une urgence. Comme les sapeurs-pompiers, ce sont des véhicules prioritaires. Mais le corbillard, il n'y a plus d'urgence.
Mais mon colonel, il y a des cas, par exemple, aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas identifier dans ces véhicules si c'est un ministre ou un vice-ministre, on voit deux fois le véhicule avec le numéro AG, on comprend que c'est peut-être le membre du gouvernement, mais est-ce qu'un vice-ministre ou un ministre, peut-être, qui n'est pas dans une mission urgente, qui quitte le cabinet pour entrer chez lui, ou en pause où il retourne, bon, même s'il n'a pas un véhicule, son véhicule n'est pas escorté par la police, doit-il être considéré avec cette plaque du gouvernement comme prioritaire?
Négatif.
Mais est-ce que c'est n'importe quel...
La loi dit, les véhicules est prioritaire lorsque il est dans un escorte de police. N'est-ce pas? Mm-hmm. Quand vous trouvez l'escorte de police avec des véhicules là-dedans, ça signifie que tous les véhicules qui se trouveront dans ces escortes-là ce sont des véhicules prioritaires. C'est comme ça que vous verrez le chef de l'État. Ce sont les policiers qui sont devant, avec des motards. C'est pour montrer que c'était la suite-là, elle est prioritaire. Si vous trouvez un ministre devant, avec le véhicule de police, généralement, bon, c'est parce qu'il y a un problème de logistique aussi avec le véhicule de police, mais vous le trouverez de ce type là-dedans, vous trouverez là-dedans des policiers, là-dedans, même en tenue civile, mais ce sont des policiers qui sont en escorte, et bien c'est un véhicule prioritaire. Mais si les policiers ne sont pas là, le véhicule n'est pas prioritaire. S'il n'y a pas l'escorte de police, le véhicule n'est pas prioritaire. Il est prioritaire si il est, dans le cas d'espèce, les ambulances, dans le cas d'espèce, les sapeurs-pompiers, le cas d'espèce, des véhicules, n'est-ce pas, qui sont dans l'escorte, ou le convoi militaire, vous avez compris. Donc, je vous ai dit qu'on parle d'une urgence ou d'une intervention. Et alors là, on allume le feu et on fait détonner, n'est-ce pas, la sirène. Vous dites, donnez l'espace parce qu'il y a une urgence.
Et tout autre véhicule, qu'il soit des ministres, quand il n'est pas...
Le véhicule de la police, s'il n'est pas en intervention, ce n'est pas un véhicule prioritaire.
Il s'arrête.
Mais il roule comme tout le monde.
Félicitations quand même, si on peut les dire. On voit plusieurs fois les véhicules des autorités de la police. Moi, je me suis retrouvé à Lemba dans l'embouteillage avec un véhicule d'une autorité de la police. Bon, tout le monde s'est étonné.
Vous voulez parler du commissaire général adjoint général Patience?
Plusieurs fois, on s'est retrouvé dans les embouteillages avec lui.
Même le commissaire général aussi, il est dans l'embouteillage, il ne progresse pas. Mm-hmm. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, c'est la même des choses. Les autorités de la police ne roulent pas prioritaire. Ils roulent pas priorité parce qu'ils connaissent.
Mais c'est plutôt plus les autorités civiles qui ne sont pas...
Ils en abusent. Ils en abusent.
Ils font ça sur la route.
Ils en abusent. Et nous sommes là pour passer des émissions éducatives pour qu'ils entendent. C'est vrai que les jeunes gens qui sont dans les différentes véhicules d'escorte, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais regardez la hiérarchie de la police. Les commandants de la police. Ils sont même dans les embouteillages, ils attendent, alors qu'ils ont un véhicule avec gyrophare. Ils allument pas les gyrophares. Mais si il y a une urgence où ils sont attendus pour une réunion, n'est-ce pas, qui a des intérêts rapides avec la civilisation, là, il s'effraie un chemin.
Voilà. Mais avant d'écouter le deuxième groupe d'auditeurs, il y a aussi cette préoccupation par rapport à la protection, parce qu'avec cette décision de la police, il s'est posé un problème de policiers qui gardent, par exemple, des banques. Il y a eu une réunion avec les sociétés de gardiennage pour qu'on puisse aussi constituer un peu la population aujourd'hui. Mais après tout, vous l'avez dit, qu'ils doivent être gardés. Mais quel est le rôle aujourd'hui des sociétés de gardiennage dans ça? On voit même des fois des escortes avec mélangées et la police et les membres des sociétés de gardiennage. Rapidement, avant qu'on écoute les derniers groupes d'auditeurs.
Bon, écoutez, l'article, il y a l'arrêté ministériel numéro 25 du cabinet du ministre de l'Intérieur, un arrêté de 2014 apportant, n'est-ce pas, conditions d'exploitation des sociétés de gardiennage en République démocratique du Congo. Son article premier, il est stipulé et considéré comme société de gardiennage au sens du présent arrêté toute personne morale commerçante de droit congolais exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, sans se substituer au fond de l'ordre des services. Et qu'est-ce que le service de gardien doit faire? La première chose, sa mission. Surveiller et protéger les biens mobiliers et immobiliers. Protéger les personnes. Surveiller et protéger les transports de valeurs. Gérer les centres d'alarme et de toute autre technologie de surveillance. Accompagner les véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière. Voyez-vous? Et l'article 4 dit, nul ne peut offrir le service d'une société de gardiennage ou organiser un service interne de gardiennage ou se faire connaître comme tel s'il n'y a été préalablement autorisé sur base d'un permis d'exploitation délivré par les ministres ayant la sécurité dans ses attributions après avis de la commission qui est instituée pour le contrôle. Mais malheureusement, quand nous avons eu la réunion avec eux, on a remarqué juste 35 sociétés qui avaient les permis d'exploitation délivrés par les ministres de l'Intérieur. Il n'y a eu pas moins de 345 sociétés qui sont venues. Dans les 345, 310 ne portaient pas les permis d'exploitation du ministère de l'Intérieur. Mais ils sont en train d'évoluer avec nos policiers.
C'est-à-dire qu'il y a un travail de nettoyage qui doit être fait.
Mais il a été proposé de récupérer rapidement tout d'abord ces policiers qui étaient avec eux parce que ils n'ont pas droit d'existence, ils n'existaient pas, ils n'avaient pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir l'abusus, les fructus, n'est-ce pas, et les usus. Donc, quand vous n'existez pas, vous ne pouvez pas aliéner, posséder, ni, n'est-ce pas, jouer.
Et ça, c'est important, on va revenir à
nous allons récupérer nos policiers.
345 sociétés de gardiennage, mais 310 sans autorisation du ministère de l'Intérieur.
Sans permis d'exploitation.
Sans permis d'exploitation, mais qui opèrent quand même. Et qui ont même des policiers qui les accompagnent.
Pour des interventions.
C'est qu'il y a un travail qui doit être fait. Serge, vous êtes à Kamina, Jérémy, Talumbashi, Martin, à Manono, 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Radio Capi donne la parole aux enfants sans exclure les adultes. Tous les vendredis à partir de 14h15, rediffusion tous les dimanches à 12h10 et mardi à 15h30. Les enfants et les adultes débattent sur les sujets qui les concernent sur votre radio.
Serge, vous êtes à Kamina, vous avez suivi hein, cet échange, comment nous poursuivons. Quel est votre point de vue, Serge? Bonjour.
Bonjour, bien-aimé Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous écoutent à ce moment.
On vous écoute.
Oui, moi je crois, vous allez un peu me comprendre. Autrefois, je vous ai dit que je suis monté sur un arbre où je dois vous suivre, je suis même de Kamina. Ce sont là vraiment les conséquences du recrutement des agents-là de la police. On recrute n'importe quoi et n'importe qui. On ne connaît même pas qui il faut passer là-bas. Il y en a qui étaient dans des milices, comme en Asabou. Il y en a qui étaient dans des M23. Les gens qui sont déjà bourrés d'assassinats. Vous croyez qu'ils peuvent avoir pitié pour assassiner ou tuer une personne? En tout cas, là, c'est vraiment grave. Et puis même l'insécurité qui règne pas seulement là-bas. On continue à entendre des massacres partout là. On est passé là à Kinshasa, on disait qu'il fallait recenser ceux-là qui gardent les armes. Où en est-on jusque-là aujourd'hui? C'est question vraiment de recrutement. Et puis, bref, en droit, il est dit, qui cause préjudice a droit de réparer. Et même à chaque question correspond une réponse. Ces messieurs-là, on doit les chercher, il faut qu'on les poursuive, qu'on ait au moins les traces. Et puis, changer notre code pénal, c'est lui qui tue. On peut essayer peut-être du système là, du code. Bon, là, on peut aller bien. Puisque j'ai vu Mouzé quand il est entré, il y a un policier, un militaire qui avait tué. Un joueur, il est défendu comme ça publiquement. Voilà que ça peut donner aussi des leçons morales. Merci, voilà un peu ma petite contribution.
Merci beaucoup, Serge. Vous savez que vous luttez pour le rétablissement de la peine de mort. Mais comme notre invité l'a dit tout à l'heure, il a été difficile de remonter pour savoir qui étaient les propriétaires de ces véhicules. Parce que d'abord, sa plaque d'immatriculation était bâchée et quand il a démarré, il est parti. Ça, c'est un problème qui se pose. Lui, on ne sait pas identifier la personne. C'est pourquoi il y a eu toutes ces mesures. Et vous revenez encore sur la question de la formation. On va demander à notre invité si les policiers qui sont commis à la protection des institutions et de votre personnalité ont-ils une formation particulière. On va en parler tout à l'heure. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour également à notre invité.
On vous écoute.
Surtout, hein, je salue le professionnalisme avec lequel il a toujours fait montre par ses stratégies. Je me rappelle, autrefois, dans l'affaire Kuluna, il s'est beaucoup impliqué. Ça, c'est un fait. Mais nous devons connaître une chose, monsieur Pierrot. La sacralité de la vie d'une personne étant un facteur quasiment et purement incontournable, il revient alors, il ne revient pas à un individu, d'où soit, de quelle catégorie qu'il soit, qui se lève le matin et mettre la vie d'un concitoyen comme ça, c'est ce qui est inconcevable, je pense, que dans ce pays. Je pense qu'il revient à la police de circulation routière, d'assurer la bonne régulation, question de remettre les choses sur les rails. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ce pays, M. Pierrot? Vous allez voir quelqu'un qui se lève le matin, il fait une petite formation quelque part en droit, je ne sais pas, de l'homme, et voilà, il a une mention laissée passer, et il sait quoi être monsieur de la rue, et il pose des actes, et il reste impuni. Je pense que notre pays doit quand même placer les gens à la place qu'il faut, question de punir de tels gens. Même si c'est une autorité qui passe. Hein? Mais vous qui êtes là en tant qu'autorité, pourquoi ne pas donner l'ordre à ces policiers qui mettent fin à une personne? Vous êtes là, vous assistez impuissamment et on tue un concitoyen, monsieur Pierrot. Ce n'est pas vraiment possible. Nous êtes ici à Lubumbashi, prenons le temps. Nous sommes en train de voir ceux qui créent beaucoup de désordres, surtout les policiers et les circulations routières, parce que chacun a un véhicule. Comment voulez-vous? Ça, c'est un fait réel. Vous allez vous rendre compte que parmi les policiers de circulation routière, chacun a au moins un véhicule. Et je me demande, qui doit contrôler qui? Et quelqu'un qui se lève le matin, il dit voilà, j'étais en bus à un moment, j'ai vu un monsieur qui dit voilà, je dois passer comme je veux, parce que il suffit que quelqu'un est sur la route et il verra qui peut contacter, parce que c'est le véhicule d'un colonel ou d'un individu. Monsieur Pierrot.
Merci beaucoup, Jérémy. Vous avez évoqué cette question où plusieurs fois les chauffeurs disent même aux policiers, vous ne pouvez pas m'arrêter parce que sinon je vais appeler mon conduit, c'est un véhicule qui appartient à une autorité. On a déjà vu ça même avec les taxibus plusieurs fois, des chauffeurs menaçant les policiers de la circulation routière pour leur dire que non, voilà, le véhicule appartient à une autorité, on peut me laisser passer. Merci beaucoup, Martin. Vous êtes à Manono. Bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Ma contribution par rapport à cela, c'est que d'abord, je commence par compatir avec la famille qui a perdu notre collègue congolais, notre frère. Vraiment, c'est horrible dans un pays comme mon pays ici, où nous sommes en train quand même de suivre mon colonel, à qui j'ai beaucoup de respect, mon ampoute, qui est en train de nous lire les lois et qu'on sort à travers votre micro. Mais si des histoires pareilles doivent se faire, c'est vraiment horrible. Je le dis avec beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir que dans les chefs de policiers, autorités ou non, il n'y a pas vraiment cet esprit-là sympathisant. Néanmoins, on doit quand même compatir avec les paisibles populations congolais, avec la population, si bien que oui, connaissant ou pas ce qu'il faut faire, mais il faut compatir. Est-ce que le fait de détenir l'arme signifie que vous en êtes autorisé de tirer sur quelqu'un? Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler dans le tête de nos policiers. Et si nous devons seulement dire par rapport au mauvais recrutement, mais c'est pas du tout une raison, parce que on connaît quand quelqu'un entre dans l'armée, il y a les académies de formation qui sont ça et là, c'est pour travailler le cerveau de gens. Et quand quelqu'un entre dans l'armée, on doit quand même travailler sur lui, l'enseigner pour comment il doit être, qu'est-ce qu'il doit faire.
Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Martin. Vous avez souhaité d'abord que même si on a recruté quelqu'un, mais en fait, tous ceux qui sont recrutés sont formés. Ça veut dire que ces policiers qui gardent les autorités, ils sont formés. Et ils doivent savoir comment utiliser son arme en tant que garde du corps. Joséphine, vous êtes à Boston. Madame, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, je vais focaliser sur l'identification. Je ne sais même pas si je peux dire que on peut comprendre, on n'a pas encore identifié les civils. Mais les policiers et les militaires, Pierrot, Donc, l'autorité militaire qui est là, il veut nous dire que les militaires ou bien les policiers ne sont pas identifiés. Le cortège qui était là, hein, des policiers. Moi, je crois qu'à l'origine, le matin, on a identifié les policiers qui étaient dans le cortège. Si on peut pas, on peut encore, moi, j'ai pas encore accepté qu'on nous dit qu'il a fui, on peut pas le trouver. Mais si on l'a identifié, qu'on nous dit c'est tel policier qui a fait ça. On doit identifier les policiers, les militaires, quand on les recrute, quand même. Quand même. Et puis, l'autre a parlé de la formation. Le policier ou bien le militaire, il doit se sentir fort, d'abord physiquement. Et puis, s'il se sent, quand il tire comme ça, c'est parce qu'il s'est senti faible par rapport aux civils. C'est pour cela qu'il a pris seulement l'arme et il a tiré. Si un militaire, un policier, il a une arme et puis il se sent faible, il va utiliser l'arme. Vraiment, je demande aux autorités, si quand ils font des recrutements, il faut qu'il y ait la formation physique d'abord, qu'on identifie les policiers, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Les débats sur l'usage d'Amérique. Vous estimez qu'on devait déjà identifier ces policiers parce qu'ils détenaient une arme, on devait savoir que tel policier est commis à la garde de telle personne. Comme il a pris fuite, on pouvait au moins remonter plus facilement. On va écouter Félicien qui est à Kinshasa, on revient à notre invité pour placer un mot. Félicien, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capitaine.
On vous écoute.
Nous ne voulons pas la face, et nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de dire et de faire. Et la formation pour notre police, ce n'est pas pour telle catégorie ou telle catégorie, mais c'est une remise en question. C'est-à-dire qu'on doit reprendre la formation pour toutes les catégories, et du caporal au général. Parce que jusque-là, ils ont été formés dans un système et suivant les règles de ce système, c'est la dictature depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant que nous entrons dans une nouvelle ère de la démocratie, les policiers ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce que hier, même le général de la police sortait à la télévision, il menaçait la population, il demandait de prendre des photos avant d'aller à une marche pacifique. Et il faut d'abord vous photographier parce que vous n'allez pas rentrer. Quand un général dit ça, ou bien il dit que comme la masse n'a pas été autorisée, nous allons être là, personne ne va sortir et qu'on met plutôt les blindés partout dans tous les coins, on barricade. Aujourd'hui, le président de la République dit, lui, c'est la démocratie. Mais le policier n'a pas changé son comportement. Vous lui avez pas dit que ce qu'il faisait hier, c'était... Et c'était pas ça. Même si on lit les lois que les porte-parole sont en train de lire aujourd'hui, ces lois-là étaient avec eux, mais ils ne les appliquaient pas. Pourquoi? Donc, ce n'est pas les lois. Donc, il faut reprendre la formation. Mm-hmm. Vous avez vu, nous avons vu dans les entreprises, on envoie des policiers pour des gens qui font la grève dans leur enceinte, l'enceinte de l'entreprise bien fermée. Mais on entre, les policiers entrent et commencent à confisquer les sacs, les téléphones à l'intérieur. Les travailleurs ne sont pas sur la rue, ils n'ont pas brûlé les pneus. Tout ça, le policier jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il ne connaît pas plutôt le respect de la vie humaine, il ne connaît pas le respect des droits de l'homme. Mais les choses ont changé et le policier est resté là, jusqu'au général. Et vous allez commencer à chercher des solutions. Il y a une remise en question. On doit reprendre.
Merci, merci.
En les voilà. Montrant que c'est pas comme ça qu'on doit vivre.
Merci. Merci beaucoup Félicien, il faut adapter aujourd'hui l'idéologie politique, hein, aussi accompagner les policiers avec une nouvelle pensée. On revient directement à notre invité colonel Pierrot Manampoutou. Vous avez suivi les compatriotes, Félicien l'a dit, on n'a pas besoin d'une autre formation, hein, pour les policiers qui sont commis à la garde des autorités, mais c'est une remise en question, une nouvelle façon de réfléchir, ainsi que l'ensemble des préoccupations. Il y en a déjà, hein, pour lesquelles vous avez déjà donné des réponses.
Oui, merci Pierrot. J'ai suivi avec attention particulière les interventions des uns des autres. Je voudrais tout simplement dire ceci. C'est que Nous sommes maintenant en pleine réforme de la police nationale congolaise. La preuve est que la formation a été élevée au rang d'une direction générale. Mmh. Et nous avons des écoles de police et des académies de police qui sont maintenant fonctionnelles. Le commissaire général actuel, dans sa prise de fonction, il avait reçu un mandat de faire de la formation chevet de bataille. Et sans vous le dire, nous sommes arrivés dans un temps record à former 12 000 policiers que nous avions répartis à travers les 26 provinces pour la sécurisation des élections et qui se sont très bien déroulées. Et aujourd'hui, nous avons des élections qui ont produit un fait nouveau. Notre pays, il y a eu passation pacifique du pouvoir. Et la sécurisation a été sans accroc, généralement, même s'il y avait des incidents, mais sans majeur, n'étendant pas, n'est-ce pas, à perturber le bon déroulement des élections. Mmh. Et je voudrais dire simplement qu'au niveau de la police nationale congolaise, si à l'époque, on arrivait à recruter de la façon dont les intervenants ont tour à tour décrit, mais je voudrais tout simplement vous dire que la nouvelle loi ou le nouveau statut du policier qui est de carrière, qui est la loi numéro 13/03 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, à son article 16 dit, le recrutement au sein de la police nationale congolaise s'est fait par voie de concours. Mmh. Il y a le recrutement interne, c'est-à-dire au niveau, n'est-ce pas, des policiers de carrière, et le recrutement externe au niveau des civils, de la population qui viennent pour commencer la carrière de base au niveau de la police nationale congolaise. Les niveaux exigés, c'est de 6 ans, au moins 6 ans d'études secondaires. Mmh. Et vous passez au concours. Et on ne récupérait que ceux qui avaient, n'est-ce pas, eu de points par rapport, n'est-ce pas, à l'ordre qui a été préétabli. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est parce qu'au début, lorsqu'on était en train de préparer le texte de loi, parce que moi, je viens du secrétaire technique du CCRP, comité de suivi de la réforme de la police, donc je connais l'émanation de plusieurs lois, donc je sais la lecture de loi jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ça soit avalisé au niveau du gouvernement comme au niveau du Parlement. Il a été dit au niveau des recrutements que les commissions devaient descendre auprès des conseils locaux de sécurité de proximité, c'est-à-dire au niveau de quartier, poser la question, l'élément qui vient à la police, est-ce que vous le connaissez, monsieur le chef de quartier? Quel est son comportement? Quel est son caractère? Le chef de quartier nous dirait, non, ne le prenez pas, c'est un voleur de chèvres, de poules, de canards. C'est comme ça que ça a été basiquement instauré. Mm-hmm. Mais maintenant, est-ce que dans le fait, lorsqu'on procède au recrutement, est-ce que cela est faisable? C'est là la question. Question mark. Donc, nous sommes dans un processus de réforme au niveau de la police nationale congolaise. Oui. Donc, il faut qu'on donne le temps pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à l'idéal qui a été fixé. Moi, je pense que ils savent comment la police nationale a été formée. Est-ce qu'il y a eu des bribes de police qui sont venues, n'est-ce pas, de différents groupements armés. On les a envoyés à la police et il fallait lentement mm-hmm. aller de réforme en réforme. Voilà. Pour qu'on arrive, n'est-ce pas, mm-hmm. à avoir la police idéale,
oui.
et républicaine et professionnelle qu'on veut, n'est-ce pas. Mm-hmm. Et nous sommes en train de cheminer dans ce sens-là.
Ok. Mais rapidement, quand vous avez un cortège officiel ou bien sur la route, on a toujours tendance à voir le policier qui débarque avec son arme pointée. C'est un problème aussi d'effet psychologique quand on est dans un cortège normal. C'est pourquoi on s'est demandé, est-ce que les policiers qui sont commis à la garde des autorités ont-ils une formation spécifique parce qu'ils jouent un rôle qui est un peu différent des autres?
Vous avez vu dernièrement, lorsqu'il était question de commettre les 25 policiers au candidat président de la République,
oui.
Nous avons été pratiquement fait la grande vulgarisation, n'est-ce pas, de cette prise de décision qui a été faite par l'autorité. Les policiers ne savent pas détenir l'arme s'ils n'ont pas passé par la formation. Ça, c'est le principe. Il est dit, on ne peut pas exercer un métier qu'on ignore. C'est pire péché, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tu ne peux pas, quelqu'un qui n'est pas médecin, il est agronome, tu le demandes, n'est-ce pas, d'aller dans la salle d'opération. Là, il devient bouvier. Donc, chez nous, si tu n'as pas appris les métiers des armes,
tu ne peux pas détenir une arme. Alors, si le contraire s'est posé, arrivé dans notre... c'est très dangereux. Pour le policier lui-même, parce qu'il ne saura pas exactement comment tenir une arme. Mmh. Il peut être lui-même victime de son propre arme. N'est-ce pas? Quand il faut faire les mesures de sécurité, il ne sait pas où se trouve le ciel bleu. Comment il faut mettre le canon? Il risque de se tirer une balle dans le menton. Voyez-vous? Donc il faut apprendre ces métiers-là.
Exact.
C'est un métier le plus dangereux. Alors. Et puis, quand il y a embouteillage, il n'est pas autorisé aux policiers de descendre, les gardes, pour faire la circulation. Cela est du domaine de l'agent qualifié. Mais s'il a défaut, il peut descendre, mais avec courtoisie possible.
C'est là exactement, cet événement est arrivé, effectivement, parce qu'il y a
puis,
eu...
Et puis, Pierrot, je te dis, il y a...
Rapidement, pour on écoute les deux derniers auditeurs.
Ah, mais justement, oui. Il y a un acte qui a été pris par le chef, n'est-ce pas? Une décision opérationnelle qui a été prise par le chef pour que le policier garde l'arme au magasin et n'utilise que pendant les opérations de maintien des de l'ordre public avec les armes non létales.
Mais quand on regarde la police dans notre ville aujourd'hui, bon, c'est partout. Vous avez au rond-point Gaba, dans tous les coins des rues, les armes, les policiers trimballent avec
l'ordre
les armes.
L'ordre opérationnel est là. Il est de la prérogative, n'est-ce pas, des commandants d'unité, de les faire respecter.
Et ça, c'est important. On va écouter rapidement Sonville et Charles qui est à Kalangasonville, à Lubumbashi. Vous avez à chacun, excusez-nous, hein, pas beaucoup plus que 30 secondes, hein, pour émettre votre point de vue et permettre à notre invité de placer juste le mot de conclusion. Sonville, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, M. Pirot. J'estime que les policiers ne sont pas contrôlés, puisqu'aujourd'hui, on voit les policiers trimballer d'une province à une autre sans même ordre de mission. Les policiers sont devenus des éléments incontrôlables, ce qui fait qu'on puisse me reconnaître même l'effectif exact de la police. Mais néanmoins, parmi eux, il y a ceux-là qui sont instruits, mais 70% des policiers ne sont pas instruits. Même ici, au niveau de Lubumbashi, un avocat sera dans un amico. Il faut voir comment est-ce qu'un policier se comporte. Tout cela, ça entre dans le cadre de la restructuration de la police. Et au-delà de ça, moi, je me poserai la question, est-ce que cette police de proximité existe? Parce que les policiers doivent être amis aux civils. Mais quand un policier s'autorise, se donne le luxe de tirer n'importe quand, sur n'importe qui,
Il se pose un problème. Mais comme on est vraiment coincé par les temps, son ville, cette question de police de proximité, nous avons eu plusieurs débats autour de ça. Dommage pour Charles. Charles, juste un mot, hein, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour. Bon, je voudrais dire ceci. La plupart des actes immoraux que nous remarquons chez les agents de l'ordre, notamment les policiers, sont surtout provoqués par leur consommation exagérée de stupéfiants. Alors, ma préoccupation est la suivante. Est-ce qu'il est réellement demandé aux policiers de consommer forcément les stupéfiants? On les vend même partout.
Voilà, merci beaucoup. Nous revenons à notre invité parce qu'on a créé 30 secondes aussi pour conclure cet échange. Il y a cette question de consommation des stupéfiants. On estime que les policiers aussi les consomment. Alors, en un mot, mon colonel, qu'est-ce qu'on peut retenir après avoir échangé avec les auditeurs? Juste en un mot parce qu'on a créé 30
secondes. En un mot, les commandants d'unité morale et honneur qui se trouve au camp Le Fungula nous écoute à ce moment précis. Il a la charge de récupérer les policiers qui sont en divagation parce que lui qui observe la discipline dans notre corps de police, c'est de récupérer tous les policiers en armes qui sont en divagation, les envoyer au cachot parce que le cachot là il est vide là-bas. Il n'y a pas de policiers là-bas qui sont en divagation, qu'on a appréhendé sur la chaussée là avec des armes. Des policiers qu'on a appréhendé dans le début de boisson en train, n'est-ce pas, de s'enivrer. Lui doit descendre dans au niveau, n'est-ce pas, de sa patrouille, les récupérer.
Il y a eu des policiers qui sont aussi sur la route pour surveiller ceux qui sur qui
les sont. Mais c'est comme ça qu'on les appelle, n'est-ce pas, les exact. Policiers qui de morale et honneur. N'est-ce pas?
C'est leur travail.
Oui, de nous appréhender pendant les heures de service quand nous sommes en divagation en armes et en état d'ébriété ou en train de consommer, voilà. N'est-ce pas, les stupéfiants.
Merci,
de nous appréhender.
Merci beaucoup.
Le cachot est vide là-bas.
Merci, vous l'avez dit, c'est un processus de réforme, nous y allons, mais ça ne sera pas la dernière émission. Chaque fois qu'on aura besoin vraiment de rapprocher la population avec la police, on sera encore dans Parole aux auditeurs. Merci à Lengoy qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalamba. Et vous pouvez retrouver cette émission sur www.radiocapi.net, mais aussi en
rediffusion à 21h heure de Kinshasa. Merci beaucoup à notre invité, le colonel Pierrot Manampoutou, porte-parole de la police nationale congolaise. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros des paroles aux auditeurs. Au revoir.